Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café où on creuse les sujets de l'actualité tech de la semaine. Les infos incontournables sont dans l'épisode hebdomadaire que vous retrouvez dans l'épisode précédent du flux du podcast. Et là, on va pouvoir aller parler d'autres petites choses. On a des choses autour des composants, des choses sur ce qui se passe en Amérique notamment, avec l'ubérisation qui est pointée du doigt. Et puis, évidemment, des éléments autour de l'intelligence artificielle. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu?
Bah écoute, ça va très bien, tout à fait en forme pour aborder tous ces sujets tout à fait contournables.
Très bien, contournable effectivement. Tu as précommandé ton badge connecté, ton Human Pin AI, je sais pas quoi, truc machin.
Tu t'imagines que je pourrais acheter deux Steam Deck pour ce prix-là?
C'est vrai en plus, c'est vrai. Attends, rappelle-moi, les prix, c'est... Ouais, sans compter l'abonnement en plus de 24
sans
dollars.
Sans compter l'abonnement, c'est gigotonnant d'abonnement en plus, là, c'est tranquille, c'est droit, je sais pas.
On a parlé de cet appareil dans l'épisode hebdo de Tech Café. Et oui, gardons en tête qu'il y a l'abonnement de 24 dollars par mois. Donc si jamais vous l'achetez en vous disant « Oh, c'est pas grave, je le revendrai d'occasion au bout de quelques mois puisque j'aurai testé le produit », attention. En attendant, merci beaucoup à vous qui avez accepté d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé et qui avez même accepté de contribuer financièrement pour quelques euros par mois au financement de Tech Café. Donc merci en particulier à Zad Kiel, à Fabrice Bonnier, Johan Alain, Jean-Jacques Gazo, Hervé Langlois, Gilles qui paiera WinRAR un peu plus tard par notre faute, Auréo et Claude Girel. Merci beaucoup d'avoir été sur patreon.com et de vous être abonné. L'abonnement est en plus sans engagement, donc vous pouvez le suspendre à tout moment. Et puis, vous pouvez profiter en échange d'un flux du podcast sans la pub, ce qui ne gâche rien. Guillaume, sans autre forme de procès, parlons de tech, parlons de l'actualité, à commencer par effectivement les mouvements d'ubérisation qui, et c'est assez inédit, commencent à être pointés du doigt aux États-Unis. C'est pourtant pas le pays qui est censé être le plus représentatif du pointage de doigt de ce type de pratique.
Oui, c'est pas lui qui pointe le doigt, surtout. Parce que on vit une époque formidable. Une époque formidable. D'un point de vue tech, c'est vrai, on vit une époque formidable. Après, c'est vrai que ça dépend pas mal du point de vue. On a une crise climatique et écologique massive, deux guerres qui pourraient encore dégénérer, un monde de plus en plus instable, des tensions grandissantes sur tout un tas de ressources, des perspectives politiques très inquiétantes dans plein de pays, y compris le nôtre. Et un monde du travail de plus en plus violent aussi, qui entretient la précarité, la pauvreté pour des dizaines de millions de gens à travers le monde, et même dans les pays les plus riches. Ok, je sais qu'en entrant en matière là, c'est un petit peu plombant, surtout que j'ai pas parlé de l'inflation et que même Netflix est de plus en plus cher. Mais bon, une chose à la fois, là on va se concentrer seulement sur le dernier sujet, c'est-à-dire le monde du travail, pour lequel j'exagère pas. La preuve, Olivier De Schutter, qui est expert et rapporteur à l'ONU sur l'extrême pauvreté, a envoyé une lettre d'alerte au gouvernement américain et à trois grosses boîtes, Amazon, DoorDash et Walmart. Donc c'est des très grosses boîtes, dans un pays qu'on associe pas forcément au tiers-monde quand même, Et pourtant, Olivier est extrêmement perturbé par la situation des travailleurs pauvres dans la société américaine, en bonne partie ubérisée, parce que ça fait carrément partie du problème, justement, cette ubérisation. De fait, les trois boîtes citées font d'énormes bénéfices, il n'y a pas de souci pour elles, et elles emploient pourtant des centaines de milliers de travailleurs pauvres qui n'ont pas suffisamment pour vivre et qui doivent avoir recours aux aides sociales. Ce faisant d'ailleurs, c'est des boîtes qui sont donc milliardaires, et qui bénéficient indirectement de l'argent du contribuable, puisque cet argent complète les salaires qu'elle ne donne pas. Alors c'est vrai, c'est un super plan. Et en plus, c'est pas comme si c'était leur problème, puisqu'elles emploient toutes massivement des indépendants, des freelance, des auto-entrepreneurs en quelque sorte, qui n'ont accès à aucun avantage, aucune protection, et qui ont très peu de moyens de pression, va créer un syndicat quand t'es freelance. Alors bien sûr, comme l'évoquent les dites boîtes, ça donne toute latitude aux employés de choisir leurs horaires, de choisir leur volume de travail. Ils ont la liberté. Ils ont la liberté surtout de payer pour leur essence. La liberté surtout de pas trop faire chier, parce que sinon, on fait plus appel à eux du tout, et ils perdent le peu qu'ils gagnent. C'est un classique, d'ailleurs, qu'on a vu dans plein d'autres pays aussi. T'as une liberté factice, parce qu'en réalité, tu fais de toute façon plein temps pour une seule boîte, et puis tu peux pas refuser trop de courses, parce que sinon, tu te retrouves écarté, sans boulot, et donc sans pognon, et donc dans la merde. Des gens qui sont concrètement des employés, mais sur le papier, ils sont freelance, donc on s'en lave les mains. C'est trop pratique. Donc cette ubérisation, comme on dit en France, qu'Olivier pointe du doigt dans sa lettre au gouvernement américain, il la pointe au gouvernement parce que justement, il laisse faire. parce qu'il laisse faire tranquille ce genre de pratique hein, qui s'est répandue et généralisée au point de peser carrément sur les finances publiques. Les finances publiques doivent donc compenser en aide sociale et les salaires, de fait, qui sont bien en dessous des minima légaux. Et on parle pas de toutes les mesures antisyndicales qui sont quasiment la norme dans toutes les grosses boîtes américaines, on l'a évoqué d'ailleurs plusieurs fois. Donc il y a des tentatives d'améliorer les choses, hein, contre lesquelles les boîtes luttent toujours farouchement, hein, par exemple. La loi que New York voulait faire passer pour que les employés de DoorDash et Uber soient payés au moins $18 de l'heure, eh ben, se fait attaquer violemment au tribunal par DoorDash. Pour couronner le tout, Olivier pointe de toute façon que les salaires minimums légaux aux États-Unis sont eux-mêmes très faibles. En fait, le salaire minimum légal est de $7.25 de l'heure, et ça n'a pas été ajusté sur l'inflation depuis 2009, depuis presque 15 ans. Il s'en est passé des choses en 15 ans, hein, et bon, même ceux qui parviennent à ce salaire minimum, du coup, ne peuvent pas vivre correctement pratiquement nulle part dans l'Amérique d'aujourd'hui, en fait. Donc aujourd'hui, 4,3% des travailleurs US sont techniquement des travailleurs pauvres, donc ils bossent, mais ils sont quand même sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, donc on aime bien commencer cash dans le fun, hein, ici à Tech Café.
Ah, merci, merci d'avoir positionné tout de suite le ton de l'épisode, Guillaume. Et c'est effectivement important, je pense que c'est notre vocation de le relayer ici, c'est parfait. On continue à parler des choses qui peuvent aussi un peu nous scandaliser, Guillaume, et tu nous reparles de la gestion des données si cruciale dans ce monde dicté par l'intelligence artificielle.
Oui, et la pub, surtout.
Oui, oui, surtout la pub.
Et surtout
oui.
La pub. Parce que bon, pour continuer dans l'Amérique, c'est fantastique, et en particulier pour bien montrer pourquoi réguler comment on utilise les données personnelles, c'est important. Il y a deux histoires rigolotes qui ont été remarquées outre-Atlantique récemment, hein, qui concernent toutes les deux la revente de données par des courtiers spécialisés. La première vient d'un rapport de l'université de Duke, où des chercheurs ont essayé, et se sont très facilement parvenus, à acheter des données personnelles de militaires américains, en activité ou en retraite, aucune différence. Et c'est précis, on a des emails, des adresses, des données de santé, tu sais, est-ce que celui-ci est diabétique par exemple, est-ce que celui-ci est proprio de sa maison, est-ce que celui-là a des enfants, combien, est-ce qu'il est musulman, est-ce qu'il est baptiste, etc., etc. Et ça c'est pas cher, 32 centimes par fiche et jusqu'à 12 centimes si tu les achètes en gros. Donc en plus, tu es encouragé à acheter plein de données à la fois, de mieux en mieux, comme ça tu peux bien agréger, tu vois, c'est bien, parfait. Donc si tu es aux États-Unis, c'est facile. Si tu habites en Asie, bah c'est pas plus compliqué. Les courtiers vendent volontiers leurs données à des pays étrangers. Balek, aucun problème. Donc des trouvailles que certains sénateurs trouvent légèrement préoccupantes. Mais ça concerne pas que les militaires, hein, très loin de là. Alors vous connaissez sans doute pas Kochava. Moi non plus je connaissais pas. Hein. Par contre Kochava, peut-être il vous connaît. Parce que c'est un des plus gros courtiers en données du monde et il se targue d'agréger les données d'usage de consommateurs qui viennent de 275 000 applications mobiles différentes. Mmh. Et surtout d'une paire d'autres sources d'ailleurs. Donc la FTC a attaqué Kochava, il est très invasif, c'est même un point difficilement imaginable. Il possède des données très détaillées sur pratiquement tous les Américains. En tout cas tous ceux qui ont un smartphone et probablement quelques autres. Donc Kochava a essayé de faire annuler le cas d'ailleurs, hein, mais bon, ils viennent d'être déboutés. La plainte de la FTC est donc valable et un procès devrait suivre. Donc pour savoir ce que c'est Kochava, c'est pas très difficile, il suffit de lire sa plaquette, hein, puisqu'il se vante d'avoir une vision à 360 degrés sur chaque individu, de pouvoir les suivre à quelques mètres près, partout, tous les jours, avec une granularité au jour près. Il connaît les noms, les adresses, les préférences politiques, la religion, l'ethnicité, les revenus. Que tu sois près d'une mosquée ou d'un centre de planning familial, Kochava s'en fout complètement. Tu veux cibler toutes les femmes musulmanes enceintes qui sont autour de Phoenix? Ou alors les foyers monoparentaux avec des enfants entre 11 et 3 ans? Aucun souci. Y a pas de problème, c'est quelques dollars. Kochava, c'est un gros aspirateur. Voilà. Il prend tout. Quelle appli tu utilises? Combien de temps tu y passes? Combien de fois tu l'ouvres? Combien tu y dépenses? Tout. Rien ne se perd. Donc c'est vrai que le RGPD, c'est peut-être pas parfait, mais quand même, c'est mieux que rien.
Effectivement, c'est mieux que rien, tu as bien raison. On parle un petit peu aussi de Tumblr, décidément, on n'arrête pas de parler, non, on n'arrête pas, on n'en parle pas si souvent que ça, mais à chaque fois qu'on parle de Tumblr, c'est pas forcément en mieux à chaque fois, hein, Guillaume ?
Compliqué, ouais, Tumblr. Tumblr, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément souvent, pourtant c'est un site qui est assez ancien.
Régulièrement, ouais.
Parle régulièrement, effectivement, ça a été lancé en 2007, c'est du microblogging et ça a eu son petit succès à l'époque, hein, puisqu'il a été racheté par Yahoo en 2013 pour plus d'un milliard de dollars. Quelle bonne affaire. Ouais. Bon, ça n'a pas aidé Yahoo hein, du tout, qui en 2016 considérait déjà avoir perdu 482 millions avec cette acquisition. Yahoo lui-même s'est effondré. Hein. Il a été repris par Verizon en 2017. D'ailleurs, Yahoo a coûté 4,48 milliards de dollars à Verizon, c'était pas une bonne affaire du tout. Alors, le tout a été fusionné sous le nom de Oath, avec AOL, voilà, souvenez-vous, Oath, le serment.
Quel je me rappelle même plus, ça.
On en a parlé, je pense, en 2017.
C'est possible. Mais bon, alors,
pas grand monde s'en souvient, de toute façon, forcément. De toute façon, ça marche très 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 mal. Je pense que c'est plus ou moins mort, hein, de toute façon. Et Tumblr, dans le lot, hein, finalement, en a souffert aussi. La bonne idée de virer d'ailleurs tout le contenu porno quand c'est devenu Oath. Bon, évidemment, quand tu t'appelles Oath, c'est difficile d'avoir des trucs porno. Donc, ils ont viré tout le contenu porno. Bon, c'était peut-être une erreur vu le public qu'il avait, tout ça. Ça s'est pas très bien passé. On en a parlé d'ailleurs. Je pense que c'est à ça que tu fais référence. On en a parlé de ce genre de revirement. Donc, Verizon a voulu revendre Tumblr dès 2019. Et c'est Automatique qu'il a racheté. Tenez-vous bien. Pour
oui, c'est vrai.
20 millions.
Ah oui, oui.
Moins de 10 ans.
Automatique qui est derrière WordPress.
Tout à fait, Automatique, exactement, avec 2T, je crois, qui est derrière WordPress. Donc voilà, Tumblr, en moins de 10 ans, il est passé de 1 milliard à 20 millions.
Aïe,
c'est quand même assez magique. Et malheureusement, ça va pas des masses mieux ces temps-ci. Depuis 2019, et malgré beaucoup de travail, finalement, les résultats de Tumblr sont assez décevants, si on en croit un mémo interne d'Automatique. Et là, d'ailleurs, 139 personnes travaillant sur Tumblr vont changer de division. Alors, pour rappel, Tumblr avait 200 employés lors du rachat. Donc il reste vraisemblablement pas grand monde à Tumblr lui-même. Donc il n'est pas totalement mort, hein, si vous allez dessus, il est toujours vivant. Il va rester en l'état, vivre sa petite vie, hein, tant qu'il ne coûte pas trop cher à maintenir, je suppose, et puis voilà. Donc pourtant, c'est vrai qu'avec la relative chute de Twitter, on avait reparlé, hein, et on avait peut-être même cru, enfin moi, j'avais un petit peu cru que Tumblr allait pouvoir en profiter pour reprendre un petit peu des couleurs. Bon, finalement, ça n'a malheureusement pas été le cas.
Ouais, malheureusement, je suis pas certain qu'un Tumblr aurait pu vraiment concurrencer un Twitter. Va savoir. Le concurrent, hein, qui semble peut-être le plus crédible, ne t'en déplaise d'ailleurs, peut-être. Il semblerait que ça puisse être Threads, dont une arrivée dans l'Union européenne pourrait être en train d'être réfléchie avant 2024. Eh ben, écoute, on verra. Mais ce n'est plus les États-Unis. On reste en Amérique, Guillaume, parce que les Américains veulent tout contrôler, tout le temps. Tout, même ce qu'ils ont dit qu'ils ne contrôleraient pas.
Bah oui, quand on parle des États-Unis en ce moment, on évoque aussi la Chine, hein, souvent de pair. Ils sont inséparables, voilà, c'est comme Batman et le Joker, ou Superman et Lex Luthor, tu vois, un truc comme ça. Donc les États-Unis sont en train de mettre tout un tas de mesures en place pour priver la Chine de technologie américaine et lui mettre des bâtons dans les roues. Et ça va même jusqu'à un point qu'on pourrait, de manière tout à fait défendable, qualifier d'abusif. Alors, dernier truc en date, les États-Unis ne veulent pas que la Chine profite de l'architecture RISC-V. Les boîtes US seraient donc interdites de fournir du RISC-V à la Chine, plus ou moins directement. Et bon, on sait que les interdictions de business se limitent pas au territoire américain souvent, hein, c'est ça le problème. Regarde ASML, qui est hollandais quand même, et qui est interdit aussi de vendre à la Chine. Ça, d'ailleurs, la Hollande le prend moyen bien. Donc en gros, ils veulent maîtriser la prolifération de cette architecture aussi, chez eux et éventuellement ailleurs, chez leurs alliés. Donc c'est intéressant parce que la caractéristique principale et la force de RISC-V, c'est d'être libre, justement, comme un noyau Linux est libre. L'organisation RISC-V, elle est basée en Suisse, elle s'est barrée des États-Unis en 2019 pour éviter les interférences avec le gouvernement, justement, et elle a eu le nez creux. Alors ok, le développement du RISC-V a commencé en 2010 à Berkeley, et bon, ça en fait pas une technologie américaine. Pourtant, c'est manifestement ce que semblent croire certains politiciens. Mais RISC-V est du souhait de ses créateurs même, une architecture libre, qui n'est pas contrôlée ni par un État, ni par une boîte privée, c'est comme ça. Parce que sinon, ça peut aller très loin. Vint Cerf, il a inventé TCP/IP, il est américain. Donc TCP/IP, c'est américain. Donc Internet, c'est américain, donc tout ce qui est sur Internet, c'était la technologie américaine, et donc c'est contrôlable, voilà, c'est à nous. Un site te plaît pas, enfin un site plaît pas à un sénateur américain, bon, on le vire, bah, ça marchera à l'attaque américaine, non? Bon, bah voilà. Non, mais tu vois... On va où, là? Je veux dire, de toute façon, c'est un très mauvais calcul à long terme. Le coup de gueule que je viens de pousser, là, cette réaction, bah, y a pas que moi qui va l'avoir. Hein. La confiance est rompue si tu respectes plus les pratiques, les bonnes pratiques, si tu commences à revenir sur ta parole comme ça. Mais ok, on n'utilisera plus de technologie américaine, du coup, puisque ça nous vassalise. Le seul truc que ça va faire, c'est que ça va pousser tout le monde, et la Chine en tête, bien sûr, mais pas seulement, hein, à faire des trucs à nous, pour nous, et que des revirements politiques ne pourront pas foutre en l'air à tout moment. Et dans la foulée, on n'achète non plus de technologie aux États-Unis, donc on leur file plus de pognon, et c'est du manque à gagner, et c'est tant pis. Et c'est un petit peu ce que dit Andrew Wang, qui est en marge du RISC-V Summit, hein, qui a lieu à Santa Clara, ajoute qu'économiquement parlant, bah, c'est une erreur déjà à court terme, parce que ça va décourager toute entité américaine de se mettre au RISC-V, parce que, ben voilà, va savoir, tu travailles sur un truc, tu fais un produit, si un Chinois l'achète, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faudra payer des grosses amendes qui pourraient carrément tuer ton business. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas y toucher, tu vois. Mais si ça se passe comme ça, les États-Unis vont prendre du retard sur le reste du monde, sur une architecture qu'ils ont conçue. Alors c'est ballot, surtout qu'à terme, ça pourrait devenir une alternative à ARM, dont le monde entier, États-Unis compris, est dépendant en réalité, et qui lui n'est pas américain. Bon, alors de plus en plus de voix s'élèvent pour défendre l'amour du risque, espérons que tout ça, ce soit simplement de la confusion chez les politiques entre standards et produits finis ou des trucs comme ça, mais bon, espérons que ça ira pas plus loin.
Effectivement, écoute, parfait, on va continuer d'ailleurs à parler de risque 5 en plongeant dans une rubrique complète sur les composants, et tu voudrais d'ailleurs nous parler de l'hypothèse de l'utilisation, de l'adoption de risque 5, de risque V, par les hyperscalers.
Oui, on continue un petit peu sur RISC-V, hein, puisqu'on a l'impression que ça va lentement, voilà, que bientôt, peut-être, on aura une smartwatch, cette architecture alternative. Ouais. Que pour l'instant, il y a juste des petites pupuses et que, voilà, on n'a pas de soucis à se faire avant très longtemps. Mais en fait, ça va plus vite que ça, finalement, parce que les premières puces pour data center, donc pour les serveurs professionnels, pour les serveurs de calcul même, qui sont en RISC-V, sont déjà prêtes. Alors, sur le papier, on va dire, mais finalement, il ne reste plus qu'à les mettre au four et c'est bon. Alors, c'est le cas pour les Veyron, donc avec un Y, Veyron, qui sont
comme
passés en V2, presque, exactement, qui sont prêtes à cuire. En décembre dernier, Ventana a donc dévoilé ses Veyron V1, qui nous ont sauté aux yeux, effectivement. Bon, les Veyron V1, c'était des puces pour serveurs, déjà, qui étaient cadencées à 3 GHz, qui étaient prévues pour être gravées en 5 nanomètres, des puces composées de 16 cœurs par chiplet. Donc c'est des puces en chiplet, hein, comme les puces modernes de chez AMD ou Intel. Il y avait 16 cœurs par chiplet, il y avait 48 mégaoctets de cache par cluster et jusqu'à 128 cœurs. Donc c'est vraiment des puces professionnelles, il n'y a pas à se planter. Donc des puces pro qui ont été raffinées depuis, et on a déjà la V2. Alors, on a déjà une V2 en fait parce que tout simplement il y a eu un changement d'interconnexion. Enfin bon, techniquement parlant, il y a un changement d'interconnexion entre les chipsets, ils sont passés à l'UCI Express. L'UCI Express en fait c'est le PCI Express tout simplement, mais pour mais sur puce. C'est-à-dire que c'est l'interconnexion à très haute vitesse entre les chiplets, donc entre les modules comme ça qui composent la puce complète. Et bon, UCI Express a des avantages par rapport à ce qu'ils utilisaient avant, c'est un standard Intel, mais c'est un standard qui est ouvert de toute façon. Donc ils en ont profité pour passer un petit coup de polish à la V1 et puis rajouter quelques petits trucs. Par exemple, des extensions de calcul vectoriel sur 512 bits, qui ressemblent furieusement à de la VX512 de chez Intel d'ailleurs, hein, par exemple. Et le tout, donc, va être poussé à 3,6 GHz et 192 cœurs. Et prévu pour du 4 nanomètres, ce qui permet effectivement de booster un petit peu le nombre de cœurs. Donc le V2 devrait être compétitif avec les puces AMD, hein, les EPYC et Bergamo, et les Xeon SP d'Intel. Et ça devrait même enterrer les Xeon SP au niveau performance par watt, d'ailleurs. À 360 watts, les 192 cœurs d'un V2, d'un Veyron, seraient au-dessus d'un EPYC à 128 cœurs. 128 cœurs de 256 threads, hein, dans la même enveloppe thermique, on va dire. Donc c'est sur les performances de calcul entier qu'on a des chiffres, on n'a pas d'infos sur le calcul flottant, mais il se profile clairement qu'il y a un nouveau challenger dans la partie qui est arrivé. Donc on s'attend à ce que ces puces soient compétitives, déjà avec la concurrence, après évidemment, quel sera le prix, comment ça va se passer, on verra, mais il y a une ouverture pour cette nouvelle architecture, même si ça se fera évidemment pas du jour au lendemain non plus, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour AMD, Intel et ARM, qui par ailleurs fait aussi lui des puces pour serveurs, hein, tout à fait. On en trouve chez Amazon, par exemple. Et ça va vite. L'architecture Intel a mis du temps avant de truster, finalement, le secteur de tous les serveurs du monde. Hein.
Ouais.
Dans les 15 ans, ARM s'y creuse son trou depuis une dizaine d'années, déjà. RISC-V, c'est sa première puce est déjà prête. Et si ça part l'an prochain, ça aura mis, finalement, moins de 5 ans à commencer, quoi. Donc on verra bien à quel point ce sera une part de marché mesurable dans les années qui viennent.
Et vous n'aurez pas attendu 2023 si vous écoutez Tech Café pour en entendre parler grâce à Guillaume. On va continuer à parler des processeurs, mais si j'ai bien compris, des fabricants des processeurs. Avec, du coup, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui sont capables d'aller construire les outils qui permettent de réaliser après les processeurs, les puces. Il y a Canon, a priori, qui veut lui aussi tirer son épingle du jeu. J'ai bon, Guillaume ?
C'est ça, c'est exactement ça. Il veut devenir un équipementier de première importance pour les fondeurs, donc pour les gens comme Samsung, TSMC, Intel et compagnie. Et en fait, pour l'instant, l'équipementier principal, celui qui fournit les machines qui sont nécessaires au plus haut de gamme, c'est ASML. Donc ASML, donc on l'évoquait avec les restrictions américaines, hein, donc c'est le hollandais, c'est le seul actuellement à proposer des machines de photolithographie qui soient assez sophistiquées pour permettre la production de puces vraiment de top niveau, quoi. Donc les 3 nanomètres, voilà, ce genre de trucs. Donc, alors, ce qui fait qu'interdire à ASML de commercer avec la Chine, bah, c'est lui interdire directement de produire des puces haut de gamme, finalement, à la Chine, tu vois, qui soient compétitives, en tout cas, avec celles de Samsung ou TSMC. Et puis, comme ASML est en position de monopole de fait hein, sur le secteur, bah, ils ont aussi les prix qu'ils veulent, puisqu'ils y sont. Alors, les machines, c'est énorme. Hein, c'est des machines qui sont vraiment... Enfin, ça prend des pièces entières, ça coûte facilement 100 millions de dollars pièce, une machine ASML. Alors, c'est peut-être... Peut-être que ça va changer, parce qu'il est possible que la dominance absolue, comme ça, d'ASML soit... Bah, que les jours de cette dominance absolue soient comptés. Donc Canon affirme avoir trouvé de quoi diviser par 10 le coût des machines, et dans la foulée, peut-être, plus démocratiser finalement la fabrication de puces, qui ça reste vraiment complètement cantonnée aux plus grosses, tu vois, ceux qui peuvent vraiment se permettre de dépenser des milliards et des milliards par an pour le faire. Alors Canon veut commercialiser de nouvelles machines qui feraient non pas de la photolithographie, c'est-à-dire où on écrit le circuit avec un super laser ultraviolet, mais de la nano-impression. Alors la nano-impression, c'est exactement dans son principe ce qu'on imaginerait que ça fait intuitivement, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'impression, on imprime, pouf. Donc on a un moule qu'on presse sur un substrat qui prend la forme du moule, tout simplement.
Il faut que le moule soit diablement petit, du coup.
Eh bien, c'est un tout petit moule, exactement, tout à fait, ce sont des tout petits moules. Donc on a un moule qui a la forme du circuit qu'on veut, et on le presse contre le wafer, et hop, on a le circuit, enfin en tout cas on a... une bonne partie du circuit, on va dire, avec des formes 3D et tout, on peut parfaitement faire des formes en relief, donc on peut faire des fines faites, tout est possible. Il n'y a pas besoin d'avoir des lasers de la mort, donc c'est une technique qui s'est développée en parallèle, finalement, de la photolithographie. Donc, et le truc, c'est que la photolithographie devient de plus en plus difficile, et la nano-impression, elle s'améliore progressivement dans son coin, et du coup, le temps est venu, si tu veux, où ça se rencontre, où elle est compétitive, sur des nano-échelles qui sont voisines de celles qu'on utilise pour les composants. En fait, Canon donne des échelles de 14 nanomètres d'épaisseur minimale, ce qui permet d'atteindre des puces de classe 5 nanomètres, de classe dite 5 nanomètres. Donc c'est très bien, c'est-à-dire que la photolithographie... En photolithographie, si tu veux faire du 5 nanomètres, il faut déjà utiliser des ultraviolets extrêmes. Donc ça veut dire des machines qui sont déjà très très chères. Donc du coup, même si, oui, les constructeurs les plus avancés sont déjà aux 3 nanomètres, donc ils sont une génération d'avance, si tu veux, la nano-impression, même si elle est un petit peu en retard, et qu'elle a aussi ses contraintes à elle, hein, il y a aussi... c'est pas magique, hein, parce que effectivement, c'est plus facile d'introduire des contaminants sur le wafer quand tu presses, quand il y a un contact physique, tu vois, quand tu as une presse. Donc tu peux introduire des défauts ou des contaminants, donc c'est possible avec qui rentre en contact avec le moule, tu vois. Par contre, c'est un processus qui est beaucoup plus simple, la nano-impression, que la photolithographie, en fait. Et qui fait pas appel à des dispositifs optiques de l'espace, quoi. Hein, et donc dans l'ensemble, c'est beaucoup moins cher. Donc c'est une excellente nouvelle, parce que ça pourrait permettre à des boîtes qui sont beaucoup plus petites de faire des puces, disons, milieu de gamme, suffisamment bonne pour énormément d'usages. Et donc ça pourrait faire émerger plein de nouveaux acteurs et de démocratiser un petit peu plus quand même la production de semi-conducteurs, ce dont on en a, ce dont on a énormément besoin. On se tape des problèmes d'approvisionnement chaque fois que un des deux, grosso modo, fournisseurs a des problèmes, le monde entier se tape des problèmes d'approvisionnement. Donc il y a vraiment un souci. Et c'est une excellente nouvelle, en fait, si c'est possible d'avoir des alternatives.
J'en profite, pendant que tu parlais, j'étais sur le site d'ASML d'ailleurs, où j'étais jamais allé. Pourquoi est-ce que les machines ont autant de miroirs? On est d'accord, ils en rajoutent, Guillaume, ils n'ont pas besoin de tout ça, c'est pour faire style, hein, on est d'accord.
Oui, bah, bien sûr, bah, attends, il faut aussi, l'image, hein, l'image. Faut que ça ait l'air complexe.
Ouais, c'est ça, faut que ça ait l'air compliqué. On continue avec, en parlant des grands acteurs qui font des puces, c'est TSMC, Guillaume.
Oui, toute petite news pour signaler effectivement que justement TSMC, qui a des problèmes de packaging, on en avait parlé, on avait parlé de ses soucis avec Nvidia surtout, et tous les autres, finalement, le fait que TSMC pouvait leur graver des puces, mais qui avait des soucis à finaliser le processus en réalité. Donc on estime environ 12 000 wafers par mois la capacité de TSMC, et elle serait passée à 15 000. Donc ils mettent vraiment le paquet, et ils espèrent augmenter à 20 000 pour le premier semestre 2024. Et 40% de cette capacité serait destinée à Nvidia tout seul. Donc c'est vraiment, il y a vraiment de très très gros besoins. Et même avec une augmentation de sa production, TSMC ne fera jamais assez pour satisfaire tout le monde. Lui, Nvidia, qui a des besoins énormes, et évidemment tous les autres clients, parce qu'AMD aussi, il va faire des puces IA, enfin tout le monde. Donc voilà, avec tous les modèles de deep learning toujours plus gros et le besoin de puissance toujours plus important, ils sont passés de 12 à 15 000, c'est super. Non, vraiment, on a besoin d'alternatives, c'est clair et net.
Et justement, tu parles de Nvidia.
Oui, parce que Nvidia vient juste de faire entrer en production une puce incroyable et magique pour l'IA, qui s'appelle le H200. et qui est assez simplement, pour le dire vite, c'est un H100 avec plus de mémoire et plus de bande passante. On l'avait déjà évoqué. Bon, bah, là, maintenant, il rentre en production. Et de toute façon, vous ne pourrez pas l'acheter, hein, parce que bon, ça va être la foire à la spéculation. Les H100 déjà sont hors de prix en quantité ultra limitée. J'imagine que les H200, ce sera vraiment pas mieux. Mais bon, pour autant, Nvidia continue de faire rêver les boîtes multimillionnaires, hein, voire multimilliardaires, avec une nouvelle itération de son super ordinateur qui s'appelle EOS. Mmh. Donc ils ont en fait upgradé EOS, qui désormais contient plus de 10 000 H100. Qui sont montés aux petits oignons avec amour sur 1344 nœuds.
J'imagine, ouais. J'imagine quand tu montes 10 000 H100, c'est ah tu bah, fais avec amour.
T'imagines chaque truc, chaque puce coûte 70 000 $, c'est fabuleux. Enfin, bon, donc, sur les marchés, là, c'est entre 40 et 70 000 $, je crois, c'est un truc de malade. Et donc, bon, ces trucs-là, il y en a 10 000. Hein, c'est, alors, en plus, il y a donc, collectivement, elles ont 800 téraoctets de mémoire haute, des mémoires HBM, donc 800 téraoctets de mémoire, c'est un truc de fou. Dessus, il y a 11,1 pétaoctets par seconde de bande passante, 40 hexaflops de puissance de calcul en deep learning. Ça me fait mal aux yeux rien que de lire les chiffres. Et bon, ça peut... Ça peut être à vous pour 37 000 $ par mois.
Ah bah ça va.
Donc finalement, tu vois, c'est pas si terrible. Et pour ce prix, vous pourrez en entraîner des GPT-1. En fait, vous pouvez entraîner un GPT-3 toutes les 4 minutes et un Stable Diffusion toutes les 2 minutes et demie. Alors, attention, c'est ce qui est marqué. Donc voilà, si vous allez voir sur le site, c'est ce qui est marqué sur le truc d'EOS. Attention, ce sont des petits coquins chez Nvidia. Ah. Parce qu'en fait, un GPT toutes les 4 minutes, c'est impressionnant. Surtout que c'est vraiment le gros calibre, hein, le truc à 175 milliards de paramètres, là, le bois lourd. Mais c'est uniquement sur une toute petite fraction du dataset d'origine. C'est uniquement sur 1 milliard de mots. Il entraîne en 4 minutes, certes, sur 1 milliard de mots. 1 milliard de mots, ça paraît déjà pas mal, mais GPT-3, il a été entraîné sur 300 milliards de mots. Et les modèles modernes, ils sont entraînés sur 1000 milliards, voire 3000 milliards de mots. Donc, on n'y est pas. Hein. Donc, si on devait réentraîner vraiment GPT-3 complètement, le GPT-3 d'origine, hein, sur EOS, ça prendrait 20 heures. Ce qui est déjà incroyable. Hein. Parce que ça veut dire que tu peux créer un GPT de classe OpenAI en moins de 24 heures à partir de zéro. C'est quand même très violent. C'est très violent. Mais bon, voilà, c'est pareil pour Stable Diffusion. D'ailleurs, c'était pas le dataset au complet. Et en fait, ces chiffres...
Mais c'est pas une minute. Attention.
Non, c'est ça. C'est pas, voilà, c'est pour Stable Diffusion, c'est pareil, c'est pas deux minutes, quoi. En réalité, tous ces chiffres, voilà, viennent d'un ensemble de tests standardisés qui mesurent les performances relatives des superordinateurs qui s'appellent MLPerf. Parce que tout le monde fait de l'IA, et que c'est devenu un besoin central, ben, les outils de benchmarking évoluent aussi dans ce sens. Donc ça veut dire que quand c'est écrit, que EOS affiche 40 hexaflops, c'est un maximum idéal. Et c'est sans doute pour des matrices creuses, voilà, vraiment idéal. Et surtout, c'est pas du tout la capacité en force brute de calcul double précision qu'on aurait sur un super ordinateur Frontier, par exemple. Pas du tout. En 64 bits, EOS, à mon avis, il a des performances qui sont pas terribles, en réalité, parce qu'il est pas fait pour ça du tout. Et donc, il faut bien garder à l'esprit que les super machines se spécialisent, désormais, et qu'il faut pas forcément les comparer entre elles directement, tu vois. Tu compares, un truc comme Aurora, ça atteint à peine les 2 hexaflops, et là tu dis, ah putain, c'est 40 hexaflops, c'est hallucinant, mais c'est pas du tout sur les mêmes calculs en réalité.
Eh ben écoute, ça promet. On continue avec une autre rubrique générationnelle, comme tu l'as appelée, Guillaume, avec un concurrent de nos modèles de langage, et peut-être même un concurrent de Grok, vous savez, hein, porté par Elon Musk. C'est un concurrent chinois, il s'appelle Yi. Je le prononce bien, Guillaume?
Yi, bah probablement. Yi. Écoute, je sais pas. C'est vrai qu'on a toujours pas essayé Grok. Hein. T'as pas eu l'occasion,
ouais,
toi non plus?
Non, pas du tout, non.
Ben non, c'est ça. On n'est pas abonné premium. Alors bon, voilà. Il y a plein d'abonnés premium qui l'ont fait et ça confirme un peu ce qu'on attendait. Un Grok est potache, quoi. Voilà. Il est pas fin. Il est occasionnellement marrant, mais il a quand même un potentiel malaisant et problématique, un petit peu comme certains tontons ou beaux papas qu'on peut avoir dans notre entourage.
On l'entend presque rire en faisant. C'est le rire un peu gras.
Alors, il n'hésite pas, hein, à être sarcastique, vulgaire, avoir un langage imagé, on va dire, pour par exemple expliquer comment on fait les bébés, c'est assez marrant. Donc, ça, il n'est pas consensuel, ça c'est clair. Après, bon, être un sale gosse, ça ne veut pas dire nécessairement que tu es plus intéressant, que tu es plus utile. Tu peux faire des vannes autant sur Trump que sur Justin Trudeau, ok, bon. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est de voir à quel point il est performant, à quel point il est factuel, à quel point il est logique, à quel point il comprend ce que lui dit, quoi. Donc pour le moment, c'est assez dur de savoir. Bon, c'est encore un petit peu tôt, on verra au fur et à mesure à l'usage. Mais c'est sûr que le secteur des chatbots commence à être très encombré. Il y a du monde dans le bus. Il y a ChatGPT qui a deux têtes en plus. Il y a Claude, il y a MyAI, le machin de Snap. Il y a le machin de Facebook aussi d'ailleurs. Il y a Grok, donc le machin de Twitter, enfin de X. Il y a une multitude de dérivés de Llama 2, de Mistral. Voilà, il y en a d'autres encore moins connus. Puis il y a des LLM qui ont du potentiel, même s'ils sont un petit peu en retrait médiatiquement et qui sortent voilà régulièrement, comme les Falcon, comme les Stable LLM. Et depuis un moment, il y a les modèles chinois aussi, comme Qwen, par exemple, ou tout dernièrement, Yi. Alors Qwen, c'était déjà un petit modèle qui était relativement bon pour sa taille, hein, puisqu'il faisait 14 milliards de paramètres au maximum, mais Yi semble complètement d'une autre catégorie. Alors la boîte qu'il a sortie, c'est 01AI, 01.AI, et Haifu Li, son PDG, se rêve carrément comme un OpenAI chinois. Alors 01.AI est déjà évalué à 1 milliard de dollars, donc c'est quand même une belle... C'est une licorne, quoi. Une licorne chinoise, mais c'est une licorne. En tout cas, si on en croit les résultats des tests standardisés, qui, on le sait, quand même, ont leurs limites, Yi donc existe en version light et en version plus puissante. Donc il y en a une à 6 et une autre à 34 milliards de paramètres. Et à cette taille, donc si on en croit les tests, sur Hugging Face, hein, Yi dépasse les capacités de Llama 2 70B et de Falcon 180B. Et même assez confortablement. Ce qui est... en fait, presque trop beau pour être vrai. C'est-à-dire qu'on aurait un modèle à 34 milliards de paramètres qui serait meilleur qu'un modèle deux fois plus gros, voire cinq fois plus gros, quoi. Et bon, voilà, à confirmer, en tout cas, c'est ce qui a marqué sur les tests de Hugging Face. Et en plus, Yi, assez logiquement, hein, est parfaitement bilingue anglais et chinois. Ah bah oui. Il existe en plusieurs variantes, d'ailleurs. Hein, il y a même une variante à très long contexte qui a une mémoire donc hein, de 200 000 tokens. Donc c'est énorme, bon, c'est un peu virtuel parce que concrètement, il faut avoir la mémoire et la puissance de calcul pour supporter 200 000 tokens, mais bon, c'est quand même notable. Donc Yi est un début, donc il est en open source, vous pouvez le tester d'ailleurs, quand il y en a la mémoire pour, bien entendu. C'est possible sur LM Studio, hein, donc vous pouvez télécharger Yi directement, mais le but avoué, c'est d'entraîner le plus gros modèle, voilà, un plus gros Yi, je sais pas, peut-être ou un autre, hein, Yo, je sais pas, qui serait donc d'une meilleure qualité, parce qu'il fait 34 millions, mais je pense que ce serait dommage de se priver d'entraîner un modèle à plus de 100 milliards de paramètres. Et du coup, ça pourrait avoisiner effectivement les qualités des modèles d'OpenAI, quoi. Et c'est vraiment le but, quoi. Donc, si le classement dit vrai, ben, il n'est pas du tout impossible que ça arrive. C'est-à-dire qu'on ait, chez les Chinois, quelque chose qui soit concurrentiel avec OpenAI. Donc la concurrence va être rude. Il semblerait que l'embargo américain sur les puces ne marche pas si bien que ça, parce que la Chine, elle n'est pas loin du tout, en fait.
Ou au contraire, ce serait peut-être la Chine qui serait bien plus loin si jamais il n'y avait pas l'embargo, on va savoir.
Ah ben peut-être, mais c'est possible, hein. On ne peut pas savoir, c'est possible.
Exploserait. Hein. Mais c'est intéressant, très bien, écoute, Yi, écoute, si jamais on a des personnes qui sont versées dans la langue chinoise qui peuvent nous dire ce que ça signifie, peut-être qu'on ira regarder Yi. Et puis, évidemment, le monde de l'intelligence artificielle générative ne s'arrête plus au tech. À l'image, vous le savez, et il continue à se développer dans le domaine de la vidéo et même de la conception de modèles 3D, Guillaume.
Oui, petit tunnel générationnel pour parler de quelques nouveaux modèles hein, qui s'attaquent donc à la vidéo et à la 3D. On ne va pas rentrer totalement dans les détails, mais on peut quand même évoquer donc, ces modèles qui sont prometteurs. Donc on a I2V Gen XL,
très beau.
qui est issu de chercheurs d'Alibaba. C'est Alibaba qui cherche là-dessus, qui produit de petits clips vidéo assez convaincants. Bon, c'est toujours des petits clips quelques secondes, hein, qui sont esthétiquement assez jolis, qui sont plutôt cohérents au niveau temporel. Alors, c'est pas forcément révolutionnaire par rapport à ce qu'on a chez Pika Labs, par exemple, mais c'est à peu près équivalent en réalité. Alors, ce qui est pas mal, c'est que le code et le modèle sont disponibles. Donc, le modèle est hébergé par Modelscope. Modelscope, c'est le Hugging Face chinois. Donc, on va peut-être commencer à en parler encore plus. Ça existe depuis un petit moment, hein. Mais on entend énormément parler de Hugging Face en Occident, et l'équivalent en Chine, c'est Modelscope, et comme il y a beaucoup de modèles qui sont issus de recherches chinoises, il va y avoir probablement de plus en plus de modèles hébergés sur Modelscope, qu'on va devoir aller chercher. Donc I2V respecte la cohérence temporelle en se fixant en fait une image de base, de laquelle il ne s'éloigne pas trop, et après il y a des phases de raffinement et d'augmentation de résolution, donc il produit des vidéos en 720p. L'un dans l'autre, on sent quand même que le texte ou vidéo pourrait devenir assez accessible dans les mois qui viennent, et accessible, je veux dire, potentiellement sur votre PC, quoi, hein, comme le Stable Diffusion, ça pourrait arriver dans les mois qui viennent. Donc, autre chose qui avance vite, même si ça part encore un petit peu dans tous les sens, c'est la production 3D. Donc, et encore cette semaine, il y a deux articles avec deux méthodes différentes pour créer des objets 3D, il y a LRM et Instant 3D. Instant 3D. Leur point commun, c'est d'être très rapide. Donc ils produisent des modèles 3D qui sont exploitables en 5 à 20 secondes selon la méthode, et c'est beaucoup mieux que les solutions existantes comme DreamFusion par exemple. Alors c'est notable qu'Adobe participe aux deux articles. Donc on sent nettement que la création d'assets 3D, ça peut être l'étape naturelle suivante pour la suite d'outils Adobe, quoi. Le prochain module pour Firefly, je pense qu'il risque d'être dans ce coin-là, quoi. Enfin, moins que ça s'appelle pas Firefly, mais bon, voilà, donc c'est probablement vers là. Mais bon, LRM, c'est LRM pour Large Reconstruction Model, et ça crée des objets 3D à partir de photos en 5 secondes. Donc tu lui montres une image, et te produit un nerf, en fait, que tu peux éventuellement convertir en modèle 3D de cette image, qui est compatible avec cette image. Donc l'article présente un autre article présente un modèle qui s'appelle Instant 3D, et qui lui produit un modèle à partir de texte directement, donc une description, un prompt, comme dans Stable Diffusion, mais en 3D. D'ailleurs, c'est le cas, c'est un modèle de diffusion, parce qu'en réalité, ça utilise un modèle de diffusion qui va créer une image 2D multivue. En fait, il va créer 4 vues, en 2D, 4 vues pour haut, bas, gauche, droite, hein, d'un objet. Et ensuite, donc tu fais ça avec un prompt, et après, c'est à partir de ces 4 vues générées qu'il y a un autre modèle qui utilise ça pour créer un vrai objet en 3D que tu peux utiliser sous Blender, par exemple. Et là, le tout prend 20 secondes, et donc ça ouvre la voie de la génération 3D à domicile, carrément, dans un proche avenir. La qualité a l'air acceptable, pas incroyable, mais bon, c'est meilleur déjà que les solutions actuelles.
Eh ben, dis donc, la vitesse à laquelle ça va, et ça va aussi très très vite dans le domaine de la musique, Guillaume.
Ouais, la génération de musique, c'est un peu moins populaire que celle d'image, hein, donc il y a moins d'activité. Bon, il y a bien Music Gen, bien entendu, il y a Audiocraft aussi. C'est un petit peu moins mature, j'ai l'impression, surtout pour le grand public, en fait. Hein. Mais il y a quand même des interfaces, comme TTS WebUI ou Audio WebUI, qui veulent être un petit peu des analogues d'Automatic 11.11 pour les images. Pour le moment, ça continue d'évoluer, et la preuve en est que cette semaine, on a un nouvel article qui relance encore la machine, avec un nouveau modèle capable d'utiliser des contrôles nets pour générer de la musique. Donc alors on rappelle que les contrôles nets, ce sont des réseaux de neurones additionnels, des modèles qu'on utilise en tandem, des modèles génératifs, pour rajouter des contraintes qui sont de nature différente de celles du texte. Donc d'autres modalités de contraintes. Par exemple, avec Stable Diffusion, on peut lui poser une contrainte sur la pose des personnages, imposer des contours à suivre dans une image, imposer une carte de profondeur que l'image doit suivre, ou juste donner un croquis qui va orienter la forme générale de l'image finale. Donc ces contrôles nets permettent d'avoir plus de contrôle créatif sur les productions, et puis ils sont fondamentaux pour faire des IA génératives, des vrais outils professionnels de création graphique, en réalité. Et Music Control Net, c'est un travail qui est accompli encore une fois par Adobe Research, donc encore Adobe. Hein. Comme on peut s'en douter, Adobe explore un petit peu toutes les modalités, j'ai l'impression, c'est marrant, des fois que. Donc le contrôle de la génération de musique, il est assez simple sur Audiocraft et Music Gen. Alors sur Audiocraft, je crois que c'est juste le prompt. Music Gen, il a la possibilité de mettre du prompt et aussi une musique modèle, dont le modèle va s'inspirer. C'est comme si on avait un petit peu du music to music, quelque part. MusicControl.net, quelque part, la musique avec des contrôles nets, va beaucoup plus loin. Donc on a la possibilité de poser un contrôle sur la mélodie. Donc la musique en sortie aura la même mélodie, mais dans un autre style, avec d'autres instruments. Donc genre, tu peux faire la lettre à Elise, mais version hard rock, tu vois, en deux clics, tranquille. Donc on a aussi un contrôle du rythme, donc tu donnes un beat, alors limite tu mets juste un métronome, hein, voilà, qui fait clac, 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 et puis ça va suivre le beat. La musique qui va être générée va suivre le prompt, bien sûr, et le beat. Et donc la musique suit le rythme, et tu peux aussi contrôler la dynamique. Donc tu donnes par exemple une musique qui part doucement, et qui monte dans les tours comme ça après, donc la génération fera pareil. Et on peut contrôler d'une manière générale le volume, dans le temps, de la génération, sachant que tout ça c'est cumulable. C'est-à-dire que tu peux contrôler tout à la fois le beat, la mélodie, l'enveloppe, etc., etc. Et tu peux pondérer les contrôles. C'est-à-dire que tu peux imposer plus ou moins la mélodie. Par exemple, tu peux lui donner une mélodie, mais tu peux le laisser s'inspirer, et puis après il peut broder à partir de la mélodie, mais pas, ce qui est assez pratique pour éviter les problèmes de droit d'auteur, pas faire exactement la même. Tu vois. Donc le modèle peut aussi improviser évidemment la suite d'un début de chanson par exemple, etc. Donc on commence à entrevoir ce que seront sans doute les outils de création musicale d'ici quelques mois ou quelques années. Hein. Donc ça évolue peut-être un tout petit peu moins vite que pour les images, mais ça évolue quand même nettement.
C'est sur tous les domaines hein, que ça évolue, j'ai l'impression, de toute manière. On continue aussi à parler de génération d'images. Alors, pour celles et ceux qui voudraient s'expérimenter à la génération d'images avec Stable Diffusion, vous le savez maintenant, il y a un épisode dédié à la génération d'images Stable Diffusion depuis votre propre ordinateur. Il faut un petit peu de RAM, hein, faut un petit peu de ressources, mais c'est possible assez facilement. Et il y a du nouveau là-dessus, Guillaume.
Oui, revenons donc à notre modalité favorite, enfin celle qui est la plus populaire hein, manifestement, parce que ça ne s'arrête plus hein, tous les deux ou trois. Il y a deux ou trois trucs par semaine qui sortent, ça me tue. Donc la semaine dernière déjà, on a vu arriver déjà de nouvelles évolutions dont j'avais parlé, qui vont même vous dire une petite révolution dans le domaine. Donc par exemple, la semaine dernière, je parlais de TensorRT, donc l'optimisation de chez NVIDIA qui double la vitesse de génération sur la GeForce RTX. J'ai parlé aussi de SSD Humb qui permettait à Stable Diffusion XL, donc le gros modèle qui était un petit peu lourd pour beaucoup de configurations, d'être utilisé en version mini, en version Rikiki, qui permettait donc de l'utiliser avec des petites cartes graphiques et qui a augmenté la vitesse de génération de 60%. Et j'aurais pu aussi parler déjà la semaine dernière des nouveaux samplers LCM. Mais finalement, c'est mieux d'avoir attendu, parce que cette semaine, je vais vous parler carrément des LoRa LCM, et là, c'est carrément la fête. Alors bien sûr, quand je dis LoRa LCM comme ça, ça prête pas forcément un débordement d'enthousiasme. C'est que ces trucs. Alors commençons par LCM. Alors, LCM, ça veut dire Latent Consistency Model, et c'est, en pratique, c'est un nouveau sampler. Comme j'ai parlé des samplers dans un truc Stable Diffusion, là, c'est un nouveau sampler ultra efficace. Donc ça produit des images de bonne qualité en seulement 4 étapes, 4 itérations. C'est-à-dire 5 fois moins que les meilleurs qu'on avait avant. Je sais pas si vous vous souvenez, effectivement, pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes sur Stable Diffusion, mais effectivement, la génération d'images se fait étape par étape, hein, un certain nombre d'itérations. Et donc, les meilleurs, donc c'est les sampleurs qui font ce genre de trucs, ils ont chacun leur style et puis leur vitesse aussi de convergence. Et donc, les meilleurs, j'avais dit, c'est plus ou moins, voilà, des DPM2, DPM3, et ça convergeait en une vingtaine, on va dire, d'itérations. Là, en 4 itérations, on a déjà une image. Alors, le truc, c'est que, à l'époque, c'était la semaine dernière, ils avaient besoin d'un modèle un petit peu différent du modèle standard de Stable Diffusion. Vous ne pouvez pas utiliser le LCM directement sur le modèle que vous téléchargiez, voilà, sur Internet. Mais ça, donc il fallait télécharger notre modèle. Alors, ça valait déjà le coup, parce que passer de 20 étapes à 4 étapes pour avoir une belle image, déjà, ça valait le coup. Mais là, c'est même plus nécessaire, parce que des sorciers, hein, littéralement, ont créé des adaptateurs qui transforment n'importe quel modèle de Stable Diffusion en un modèle compatible avec les nouveaux sampleurs LCM. Donc, vous utilisez votre modèle favori qui produit les plus belles femmes renards et les plus sexy du web, vous lui mettez un LoRa dessus, et exactement comme n'importe quel autre LoRa, hein, c'est vraiment extrêmement simple, et vous générez désormais vos waifus 4 fois plus vite, comme ça, gratos. Et ça marche pour... donc, il y a un LoRa pour tous les modèles SD 1.5, pour tous les modèles dérivés de SDXL, et pour tous les modèles SSD 1B. Donc, vous êtes complètement tranquille. Alors, il faut juste faire attention à télécharger le bon LoRa pour le type de modèle que vous utilisez, et à veiller aussi de mettre un CFG très faible, c'est-à-dire le CFG, c'est le Classifier Free Guidance, il faut mettre le CFG très faible entre 1 et 2, sinon ça sera dégueulasse. Bon, ça c'est une particularité du sampler LCM, mais bon, ça change pas grand-chose. De toute façon, ça marche très bien, et ça économise évidemment un max de ressources. Alors après, tout ça est très récent, faudra voir la qualité aussi, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on fait des concessions sur la qualité qui sont très importantes ou pas. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. Bon, moi, j'ai pas constaté de baisse de qualité drastique, on va dire, pour le moment, mais enfin bon, voilà, il faudra voir quand même sur la durée. Pour le moment, j'ai testé ça sur ComfyUI, donc sur ComfyUI, ça marche déjà nickel, tout est déjà compatible. Donc c'est un LoRa de plus, voilà, tu mets un LoRa de plus et c'est parti. Avec ma RTX 2060, la génération est essentiellement instantanée. Et pourtant, c'est pas du tout une carte très haut de gamme, hein, la 2060 maintenant. Hein. Donc ça change carrément le jeu, parce qu'on touche au temps réel en réalité. Parce que si tu commences à factoriser toutes les améliorations que j'ai citées, tu mets TensorRT, tu mets SSD Humb et tu utilises ça en LCM, ben même pour des cartes milieu de gamme, même avec une 3060, tu peux carrément envisager de faire de image to image sur une vidéo. Carrément, tu peux carrément traiter de la vidéo en temps réel. Et tu peux même faire de la création en temps réel. Parce qu'on peut très facilement imaginer que tout devienne interactif, que l'image se génère, se modifie en temps réel dès que tu changes un réglage. Tu changes la pose d'un personnage sur un contrôle net, l'image se modifie en temps réel. Tu changes le CFG, pareil, tu vois immédiatement ce que ça donne. À chaque mot que tu tapes au prompt, l'image change. Et tu peux même changer l'intensité de chaque mot, ou mélanger les prompts de manière interactive, et tu vois immédiatement ce qui se passe. Et ça, c'est plus du tout farfelu. En vérité, je pense que c'est même déjà possible. Et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, parce qu'il faut se rappeler quand même que la génération d'images elle-même n'existait virtuellement pas avant mi-2022.
Effectivement.
Donc en un an et demi, on est passé des toutes premières versions de Midjourney que tu faisais dans Discord comme ça, à une génération interactive en temps réel potentiellement. Mmh. Donc c'est vraiment vertigineux.
Ouais, c'est vrai que ça va à une vitesse absolument dingue. C'est les usages aussi, Guillaume, qui vont à une vitesse complètement dingue. Et forcément, ça ouvre la porte, tout ça, hein, à des deepfakes de manière généralisée.
Oui, alors j'ai parlé de, du coup aussi, tiens, on va parler de l'épisode Stable Diffusion, puisque j'avais parlé de Civit AI. Oui. Donc, dans le supplément, j'en avais parlé, c'était inévitable, parce que c'est le plus gros site qui regroupe le plus de variantes de Stable Diffusion, du modèle de Stable Diffusion. Donc, c'est des versions du modèle de base, qui sont modifiés, qui sont personnalisés pour être meilleurs sur des paysages, sur divers styles, sur divers personnages, sur du porno, bon, voilà. Et il y a aussi plein de LoRa dessus d'ailleurs, donc plein d'adaptateurs que tu mets par-dessus d'autres modèles pour les modifier un petit peu, faire d'autres trucs, etc. Donc, c'est dernièrement devenu plus que ça, en fait, et c'est assez récent, c'est devenu aussi un service de génération d'images en ligne, et d'entraînement, même carrément, de modèles en ligne, de personnalisation de modèles. Tu peux carrément demander à Civit AI de personnaliser ton modèle, moyennant finance, bien entendu. Donc le site a déjà une réputation un peu sulfureuse, parce que bon, bah voilà, dessus il y a des trucs not safe for work, quoi, mais bon, à la limite, ok. Là où ça part en couille, c'est que Civit AI a mis en place un système de contrats. C'est vraiment ça, hein, puisque c'est des contrats sur des têtes, en fait, pour de vrai. Donc un gars peut demander un modèle qui sait, par exemple, très bien dessiner les marguerites. Parce que bah, c'est sa fleur préférée, la marguerite. Que les modèles qu'il trouve, bah, ils font pas des super marguerites. Voilà, tout le monde s'en fout des marguerites, en fait, sauf lui. Donc bon, bah, y a bien un autre gars, donc il met un contrat sur les marguerites, et puis un autre gars, sur le site, hein, qui vient, qui prend le contrat, qui lui entraîne spécifiquement pour lui, voilà, un modèle ou un LoRa, hein, qui fait des super marguerites. Et du coup, voilà, en échange, bah, il a rempli le contrat, donc il est rémunéré dans la monnaie du site, qui est donc après échangeable en cash. Alors vous voyez le problème arriver avec ces gros sabots, évidemment, c'est que personne ne demande des marguerites. Hein. Des modèles spécialisés, Margot Robbie, Jennifer Lawrence ou des influenceuses Instagram, ça par contre, c'est demandé. Évidemment, c'est là que ça part en couille, parce que Civit AI ne prohibe pas la création de modèles qui reproduisent des gens, célèbres ou pas. Il ne prohibe pas non plus la création de modèles de cul. Il prohibe seulement la création simultanée, donc c'est-à-dire le modèle de ceux qui font à la fois des gens qui existent et qui font du porno. C'est mignon, c'est très mignon. C'est mignon parce que il est bien entendu trivial de créer un LoRa pour le visage de Margot Robbie et de s'en servir sur un des innombrables modèles coquins qui traînent sur Civit AI, bien sûr. Avec son système, il encourage carrément la création des deepfakes. De deepfakes, il n'est pas difficile du tout de rendre sexuellement explicite, et ça, tout le monde le sait. Alors, bien sûr, vous allez me dire que même si le site ne proposait pas ça, on pourrait être tout simplement le faire soi-même, évidemment, sur son PC, créer son LoRa de Jennifer et lui faire subir les derniers outrages virtuels. Il y a des tutos plein YouTube pour ça, hein, donc oui, ok. Mais bon, ça n'est pas moins illégal, déjà. Et puis, ça met au moins une petite, même une toute petite friction, une petite barrière à tous ceux qui n'ont pas les compétences ou qui n'ont pas envie, et qui n'ont pas envie de s'embêter à apprendre comment faire. Là, je sais pas, avec, je sais pas, peut-être 10 balles, t'as ton modèle. Peut-être même moins, d'ailleurs. J'en sais rien. Surtout, je comprends pas la philosophie de Civit AI, parce que c'est quand même une source d'emmerde évidente. C'est vraiment un super bâton, bien dur, bien rigide, que tu tends pour te faire maraver la tête. Évidemment, les gens demandent et obtiennent des LoRa ou des modèles qui violent le droit à l'image des gens, d'autres gens. Évidemment. Et ça va se terminer au tribunal. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Et d'ailleurs, ça commence déjà en France. Puisqu'il y a Horty Underscore, qui est une streameuse Twitch française, qui a eu un contrat sur sa tête et qui a contacté le gouvernement à propos de ça et qui a demandé le retrait du modèle à Civit AI. Oui, parce que, bon, évidemment, j'ai pas explicitement dit, mais bon, évidemment, 99,9% des contrats sont des contrats sur des meufs, bien entendu, hein, bien, ça c'est sûr. Donc, c'est un virage qui est un petit peu étonnant pour Civit AI, parce que c'est un site qui a changé très vite, et il était pas le même encore cet été. Ça avait rien à voir. Donc, un site qui change vite, et voilà, donc il va vite, et là, il fait un virage serré, il pourrait bien finir dans le décor s'il continue.
Eh ben écoute, on imagine effectivement que leurs choix leur porteront préjudice et il faudra pas venir pleurer après, compte tenu de cette analyse. On regarde un petit peu, Guillaume, ce qui se passe du côté de Microsoft et de Meta en matière de deepfake, justement.
Ouais, consensuel ou pas, les myriages hein, vont devenir omniprésents de partout et ils deviennent un service comme un autre, finalement, pour toute plateforme. Bah, toute plateforme a le droit de proposer maintenant tout ça, ce genre de service-là. Hein. Donc, par exemple, Google, à l'image d'Amazon, d'ailleurs, et de Meta, hein, qui vont proposer la génération d'images pour les clients publicitaires, pour ceux qui veulent faire des pubs tranquilles, avec des fonctions pour générer des fonds, des mises en situation, et aussi des outils qui ressemblent pas mal à ce que proposent les pixels, finalement, les feuilles des téléphones. Hein. C'est-à-dire des fonctions magiques pour bouger les sujets, compléter des arrière-plans, etc., etc. Donc, des pubs génératives, en partie ou en totalité, hein, qui vont aussi se retrouver dans les campagnes électorales, à n'en pas douter, donc c'est formidable. Meta et Microsoft veulent d'ailleurs de la transparence, alors ils essaient de prendre quelques mesures pour limiter les dégâts. Meta veut pas que les politiciens utilisent ces outils génératifs pour les pubs politiques, et il rend obligatoire le signalement de toute image manipulée par de l'IA. Toute vidéo, image ou audio manipulée pour montrer un truc qui n'a pas existé, ou pour faire dire à Bella Hadid qu'elle est à fond avec Israël, par exemple, tout ça, ben ça doit être clairement affiché que c'est artificiel, que c'est manipulé. Donc Microsoft veut de la transparence. Donc il va s'associer à la C2PA, donc la C2PA c'est la Coalition for Content Provenance, et donc c'est celle qui soutient le fameux logo CR, c'est-à-dire le Content Credential, qui est donc le certificat cryptographique qui a été donc aussi évidemment montré par Apple, par Adobe, pardon, mais Apple va peut-être aussi mettre aussi d'ailleurs, qui a été montré donc par Adobe lors de la dernière conférence, là, hein, et c'est un truc évidemment qui certifie du pédigré de l'image et de l'historique aussi de ces modifications. Donc le but, c'est que toutes les images utilisées dans une campagne électorale soient certifiées et traçables. Leurs modifications soient traçables. Donc Microsoft soutient par ailleurs un projet de loi qui interdirait les images synthétiques pendant les élections. Et c'est une initiative bipartisane, donc c'est intéressant, mais bon, il faut qu'ils se dépêchent d'aboutir parce que faut au moins que ça aboutisse avant l'année prochaine. Mmh. Donc là, ça urge quand même.
Tu m'étonnes. On continue avec l'intelligence artificielle, Guillaume.
Oui, le marché de l'emploi sera-t-il le prochain à être révolutionné par l'IA ?
Ah, je pense, oui.
Enfin non, je reformule, le marché du recrutement sera-t-il le prochain à être révolutionné ?
Le recrutement.
Aussi. Et, c'est bien possible parce que d'ailleurs ça commence déjà, hein, il faut dire que le marché de l'emploi aux États-Unis a l'air bien éclaté au sol. Dans le secteur tech en particulier, hein, il faut être préparé à envoyer des centaines de CV pour recevoir autant de refus, ou pour y recevoir du tout d'ailleurs, c'est à tel point qu'il existe désormais des services qui candidatent à ta place. Enfin, pour des services qui remplissent les formulaires en ligne, en tout cas.
Il y a pratique.
Et c'est le cas de Lazy Apply. Lazy Apply qui, pour $250 pour un accès à vie, te donne un robot en fait, qui va répondre à tout seul à des centaines d'offres. Il peut t'en faire 1000 pendant la nuit. C'est ce qui est arrivé à Joseph, d'ailleurs. Un ingénieur logiciel lourdé au plus fort du dégraissage dans le secteur tech, dont on a abondamment parlé. En tout, c'est même dans les 5000 candidatures que le robot a envoyées, et ça lui a valu combien d'entretiens, combien
ton avis? Je sais pas. 500, je sais pas.
20.
C'est 20, beaucoup moins.
Soit 0,4%, c'est vraiment
c'est
très mauvais.
C'est dommage, j'aurais imaginé qu'il aurait été beaucoup plus performant, voyons.
Non, c'est extrêmement mauvais. Mmh. Et c'est aussi parce que le service candidate à tout n'importe quoi. Bon, voilà. Manuellement, il aurait eu autant d'entretiens pour entre 200 et 300 CV envoyés. C'est lui qui le dit. Hein. Mmh. Donc c'est plutôt dans les 10%, en fait. Donc c'est sûr que c'est beaucoup mieux de le faire à la main. Mais c'est fatigant, alors que là, il en a envoyé 1000, il a le même nombre d'entretiens, il a rien foutu. Bon, donc ça reste rentable. Et donc forcément, ça inquiète les recruteurs, qui se voient arriver des candidatures en masse, et des gens qui sont les premiers surpris quand on les contacte. La pratique de candidater en masse n'est pas nouvelle, hein. Alors, soit les gens le font eux-mêmes à la main, bien entendu, sans dormir, soit ils sous-traitent ça à des Philippins sous-payés. Le truc, c'est que les IA sont encore moins chers que les Philippins sous-payés, et que les IA pourraient saturer encore plus les ressources humaines, quoi, de toutes les boîtes, qui vont sans doute faire appel à d'autres IA pour filtrer tout ça. Et voilà, la boucle sera bouclée, donc il est peu probable que ça s'arrange, très honnêtement, hein, parce que déjà l'emploi est pas génial dans certains secteurs, puis les jeunes ont toujours autant de mal à se placer, étant donné qu'ils n'ont pas de réseau. Donc la tendance à faire du chiffre, voilà, ça va pas s'arrêter, et comme l'automatisation devient toujours plus accessible, j'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce de course à l'armement, comme ça va être mort à voir.
Puis ça va aller dans les deux sens, hein, les candidats qui vont exploiter les IA, et puis les RH qui vont exploiter les IA pour répondre et traiter tout ça, c'est génial. Il faudra pas oublier qu'il y a le mot humain derrière le H de RH. Guillaume, on termine avec Terminator, qui sera bien habillé à l'avenir.
Oui, les IA arrivent dans la finance pour le meilleur et peut-être pour le pire, et sans doute pour un gros bordel. Donc JP Morgan Chase vient de déposer un brevet pour un Index GPT. Index GPT qui sera un modèle pour aider les traders à savoir où investir. Donc le CEO a même envoyé une lettre aux actionnaires dans laquelle il écrit « L'IA est la matière première qui l'alimente, donc les données, seront essentielles au succès futur de notre entreprise. » Bon. Une bonne moitié des traders des grosses boîtes estiment que l'IA sera la technologie qui aura le plus fort impact dans les 3 prochaines années, et c'est pas les cryptos, hein, du coup, au passage. L'IA est déjà présente dans les banques, hein, de toute façon, comme ailleurs, hein, pour la détection de fraude, la cybersécurité, pour créer des modèles prédictifs variés. Et bien sûr, c'est pas comme si le trading haute fréquence était fait par des humains, de toute façon. Donc les algos au sens large sont omniprésents dans le secteur bancaire, malgré tout. Il semble que les nouvelles IA, donc les nouvelles IA de plus haut niveau, hein, voilà, comme style génératif, quoi, suscite un certain enthousiasme et aussi quelques inquiétudes. Alors, pour être plus précis, Wall Street n'a rien à foutre des risques, hein, apparemment, puisque le secteur financier engage à tour de bras des experts en IA et en deep learning. Et boum, c'est bien pour créer des nouveaux algos encore plus puissants, voire même qui pourraient avoir un pouvoir décisionnel beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Il y a Giuseppe Sette, qui est apparemment un ex-patron, je sais pas trop, de hedge fund, qui estime même que c'est inévitable qu'à un moment, on laisse les rênes au système. Au bout du compte, on aurait un agent IA, et puis, ben, comme voilà, c'est un agent IA, ben, il serait jamais fatigué, ce serait beaucoup plus efficace, ce serait plus simple et plus efficace, tout simplement, de lui laisser les rênes, de le faire travailler tout seul. Alors, il n'est pas complètement neutre, ce gars-là, parce qu'il est aussi président de Toggle AI, qui est une organisation qui veut créer des grands modèles de langage qui soient experts en finance, et les vendre, hein, très probablement. Donc du côté des financiers, il n'y a pas forcément trop d'inquiétudes. Par contre, du côté des régulateurs et de la SEC, on voit arriver les problèmes. Il y a Gary Gensler qui a donné une interview au Financial Times et qui décrit un petit peu ce qui l'inquiète. Alors voilà, parce qu'en gros, ce qui l'inquiète, c'est que tous ces machins IA, bah, ça va être à peu près tous les mêmes architectures, finalement. Hein. GPT, c'est des GPT, d'ailleurs. Quel qu'il soit, c'est toujours la même architecture. Et puis, ça va être entraîné grosso merdo sur les mêmes données, parce que bon, bah, les données financières sont ce qu'elles sont, quoi. Les historiques sont ce qu'ils sont, etc. Donc, à un moment, quand tout le monde aura des IA, bah, et que tout le monde les aura mises en service, bah, ils vont se mettre tous à prendre à peu près les mêmes décisions, à peu près au même moment, et ça, c'est un problème. Parce qu'en finance, si tout le monde achète ou vend en même temps, ben, le marché part en couille. Donc, si tout le monde parie sur les mêmes actifs d'ailleurs, et que tous ces actifs se cassent la gueule, pareil. Donc, en gros, il voit arriver une espèce de crash IA, comme ça, gros comme une maison dans les années qui viennent, parce que tout le monde, tout le monde aura un petit peu des comportements qui seront corrélés, quoi. Donc, il voit les IA comme une possible source de fragilité supplémentaire, comme si on en avait besoin. Et c'est déjà arrivé dans une certaine mesure, d'ailleurs, parce qu'il y a Alexandra Moussavizadeh, qui est une économiste, qui parle de l'effondrement de Long Term Capital Management, qui apparemment était un hedge fund mené par des stars de la finance à l'époque, et de l'économie, et qui s'est effondré comme une grosse bouse en 98, et c'était dû en partie à un modèle, enfin un algorithme, un modèle quoi, qui n'était pas assez bon, qui n'était pas assez adaptable. Mais bon, tout le monde n'est pas d'accord, hein. Par exemple, Ralph Coijen, qui lui dit que c'est pas évident que les IA induisent un comportement qui soit vraiment plus moutonnier que celui qu'on a déjà.
Ah bon?
Ben oui, parce qu'on est déjà très moutonnier en fait. Donc bon, pour être honnête, personne ne sait exactement comment ça va tourner. Les excès de la finance ne seront pas corrigés par les IA, c'est clair, ça pourrait empirer les choses. Mais bon, c'est pas comme si c'était génial, alors ben, c'est peut-être pas énormément plus, on ne sait pas trop. Mais bon, il n'est pas exclu aussi qu'il y ait une grosse crise financière majeure qui nous attend et que finalement, Terminator porte effectivement une cravate et un costard Gucci, il va savoir.
Ça expliquera l'illustration de cet épisode. Il vous aura fallu écouter l'épisode jusqu'au bout pour le comprendre, mais effectivement, je trouve ça assez intéressant de se poser la question de quelle mesure est-ce que les intelligences artificielles peuvent à long terme lisser les comportements humains. On vous laisse réfléchir à ce sujet. Vous avez quelques jours pour y penser et à rendre votre copie. Vous pouvez la rendre d'ailleurs sur le serveur Discord techcafé.fr/discord ou dans les commentaires de techcafé.fr sur les articles qui accompagnent la parution des épisodes. Merci infiniment Guillaume pour la préparation de cet épisode supplément de Tech Café. On va pouvoir rappeler tout d'abord à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut discuter avec toi, t'interpeller tout simplement?
Je pense que je vais déjà discuter avec Yi pour voir un petit peu ce qu'il me raconte.
Et Yi, bien sûr.
Yi. Et puis, je vais peut-être me balader sur Tumblr aussi. Il faut que je fasse connaissance un peu avant qu'il meure quand même.
Ouais, il faudrait quand même que tu aies vu à quoi ça ressemblait avant que ça ferme ses portes, effectivement. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr sur les réseaux sociaux. Et puis, bien entendu, si vous trouvez que Tech Café remplit la moindre utilité de veille tech pour vous au quotidien, rendez-vous sur patreon.com/techcafé, et puis vous pourrez participer durant la période qui vous siéra avec le montant qui vous semblera le plus juste pour nous soutenir et profiter en échange du flux du podcast sans la pub. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve désormais dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café Hebdo. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.